Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7ème numéro de Just for Games, le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné de TMDJC. Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va bien, toi. Chaque fois, t'as l'air étonné. Tu sais, ah, bah, tu vas bien.
Non, je suis surtout super content, Thierry, parce que c'est la rentrée et on a plein de jeux à tester, dont on a envie de parler. Franchement, c'est une belle rentrée.
Exactement. Et puis en plus, bah, c'est Noah, non ?
Joyeux anniversaire !
Également à toi. Et avant de démarrer cette émission, peut-être, cher TMDJC, est-ce que tu pourrais rappeler aux gens qui nous découvrent, là, qui découvrent aujourd'hui cette émission, qu'est-ce que c'est que Just for Games ?
Alors, Just for Games, c'est une société française de jeux vidéo qui vient de fêter ses 12 ans. Just for Games édite ses propres jeux, distribue en France ceux de grands noms comme Marvelous, Sold Out, Maximum Games, pour ne citer que cela, March Games également. Et puis, au sein du podcast, nous, on va proposer des choses qui sont évidemment directement liées à Just for Games, mais pas que. On aura l'occasion d'y revenir, mais on peut peut-être voir ça en détail.
On va voir ça en détail après. On pourrait même mentionner quelques jeux qu'ils ont distribués dernièrement. On pense à Tortue Ninja, Shredder Revenge. On pense à Windjammer 2, on pense à plein d'autres titres, on peut en faire plein comme ça, mais c'est pas le but. Tout de suite, qu'est-ce que tu proposes comme sommaire ?
Eh bien écoute, on va se faire un focus sur White Knight et Teenage Mutant Ninja Turtle Kawabunga. Il y aura l'interview du mois, et ce mois-ci, c'est EMB qui s'y colle. Il y a les sorties du mois, le code promo du mois. Alors ça, le code promo, c'est un truc, je sais qu'il vous plaît bien. Eh bien, il est caché dans le podcast, il faudra le trouver tout à l'heure. Il y a les éditions collector. Là, ce mois-ci, on parle de White Knight Deluxe Edition sur Switch. Il y a les vinyles, et puis on parlera de Double Dragon NES 1 et 2. Vous allez voir, c'est sympa. Les recommandations du podcast, ce mois-ci je vous parle de Stray et on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs. Il me semble que c'est toi qui t'y colle avec Returnal.
Exact, j'ai pris cher, mais oui.
Mais avant, écoute, on va commencer par les news.
Alors cette news, elle est pas très fraîche, c'est vrai, mais je me devais d'en parler. Donc, amateur de Bloodborne et autres Dark Souls, Just for Games vient de sortir en version boîte Teamesia sur Xbox Series X et PlayStation 5, un TPS dans un univers sombre et envoûtant, avec une difficulté bien relevée. Évidemment, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains.
C'est le moment de purifier votre âme avec un jeu d'arcade scénarisé au graphisme inspiré de l'esthétique flamboyante des vitraux médiévaux Saga of Things. Le jeu est développé par le studio indépendant allemand Bonus Level Entertainment, qui est à l'origine déjà du jeu Fox and Forest. Saga of Sins sera disponible au premier trimestre 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One Series et PC.
On continue avec The Callisto Protocol Day One Edition à trouver sa date de sortie qui est prévue pour le roulement de tambour. Merci TMDJC. Le 2 décembre sur Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour rappel, c'est un TPS horrifique développé par les anciens de Dead Space. L'histoire se déroule 300 ans dans le futur. Le joueur incarnera Jacob Lee, un homme victime de son destin, envoyé croupir dans une prison de fire noire. Stay tuned dans nos futurs podcasts, on va faire un focus à coup sûr.
On parlera peut-être également de Death Door, qui arrive le 4 novembre sur PS4, PS5 et Switch en Ultimate Edition, qui comprendra le jeu, la BO, un artwork, le tout dans une boîte cartonnée. On rappelle que le jeu a gagné le titre du meilleur jeu indé en 2021 au Golden Joystick Awards. Pour rappel, c'est un action RPG où on incarne un corbeau armé d'une épée responsable d'une âme qui vous a été volée. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu'aux profondeurs insondables d'un royaume qui échappe à la mort. Un jeu au style graphique très prononcé sur le noir et blanc pour les cinématiques, mais ensuite les niveaux sont très colorés, niveaux d'ailleurs qu'on va parcourir avec un gros boss à chaque fois. On vous en reparle dans un prochain podcast, c'est quasi sûr.
Bref, les gens, stay tuned. Beaucoup de belles news hein, ce mois-ci. Et encore une fois, c'est qu'une petite sélection parmi plein de choses à chaque fois.
Mais oui, allez faire un tour sur le site de Just for Games. Quand on était jeune, t'y as joué, j'y ai joué, mais là c'est une super compile. De quoi tu nous parles exactement, Thierry ?
Alors ce mois-ci, cher TMDJC, je vais vous parler, chers amis, chers auditeurs, de Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabunga Collection, qui est sorti en édition physique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, le 30 août dernier. Pour rappel, c'est une compilation des Tortues Ninja sortie à l'époque sur différents supports comme la NES, la Super NES, la Game Boy Mega Drive et l'arcade. on n'a pas moins de 13 jeux. Je vous fais un petit rappel des fonctionnalités dans la compile. Hein. On peut jouer en ligne sur certains jeux, bien évidemment, en coopération locale pour tous les jeux qui sont possibles. Enregistrer ou rembobiner à tout moment. Très pratique cette fonction revenir en arrière, on va en parler après. Le mapping des boutons, des artworks et des croquis de développement uniques, du contenu multimédia historique de Tortue Ninja. Bref, on est clairement dans la nostalgie ou l'envie de montrer à ses enfants ce que à quoi papa jouait à votre âge, les gens. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc moi j'ai testé la version Nintendo Switch que j'ai reçue par Just For Game. Je lance le jeu et le premier truc ici, on est en présence d'un jeu fait par les fans avec une jolie interface sous forme de BD. À chaque jeu, on a droit à une petite démo qui te dit le jeu ainsi que le nombre, le support d'origine ou encore les améliorations possibles pour que le jeu, comme par exemple la suppression des ralentissements, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de ralentis quand même suivant les machines, les scintillements des sprites, etc. Tout un tas de choses qu'on peut supprimer pour jouer en version entre guillemets, vous les voyez pas les gens, grosses guillemets, ou les versions d'origine d'époque, à l'ancienne j'ai envie de dire. Ça c'est pour le nouveau, c'est pour les nouveaux hein, venus, hein, ceux qui veulent connaître les versions propres entre guillemets. Je dis propre, mais c'est même pas ça, mais oui, les versions next-gen, on va dire.
Bah, si je peux me permettre une parenthèse par rapport à ça, c'est que les gens qui ont eu l'habitude de jouer à ces jeux-là avec les ralentissements se servent des ralentissements dans certains cas de figure, donc il est important de pouvoir les garder. Mais effectivement, les nouveaux arrivants, bah, ça peut être pénalisant d'avoir un jeu qui fait à la fois vieux avec des ralentissements. Donc là, on a le beurre et l'argent du beurre.
Voilà. Après, attention, quand je dis next-gen entre guillemets, c'est juste qu'il n'y a plus de sentiments, de choses comme ça. Hein. Le jeu n'est pas lissé ou quoi que ce soit. On reste dans sa version d'origine. Et vous avez les autres, comme dit TMDJC, bien évidemment, qui veulent jouer comme à la sortie d'époque. Et ça, c'est cool. On fait clairement partie de cette catégorie pour ce qui est de notre part. Plus TMDJC, vous le savez, il est d'un certain âge. Mais des gens comme moi, j'avais une dizaine d'années à cette époque. Alors voilà, je me lance et comme beaucoup de gens, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, tout le monde, le premier jeu que je mets, c'est le Tortue Ninja sur NES sorti à l'époque. Et là, pas de doute, hein. C'est comme à l'époque, je suis mort direct. Voilà. C'est simple, j'ai fait 3 mètres, je me suis fait dézinguer. Tout va bien. Du coup, je recommence, je rappuie sur pause, et là, qu'est-ce que je vois? Le guide stratégique d'époque. Oui, je m'ambiance pour pas grand-chose. Mais j'ai trouvé ça ouf, c'est les scans des guides stratégiques d'époque, avec la map, avec sur tel endroit, qu'est-ce que vous allez récupérer, qu'est-ce que vous pouvez faire, et ainsi de suite. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça, les gens. On devait se débrouiller et chercher. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je recommence. Je refais les jeux de mon enfance. Et même ceux que je n'ai jamais testés. Ça a été l'occasion pour moi de tester, par exemple, le Tortue Ninja à la sauce Street Fighter 2, le Tournament Edition.
Oui.
Car bon, il faut le rappeler, hein, mais à ce moment-là, on était en plein air Street Fighter 2 Like. Et si t'avais pas fait ton Street Fighter 2 Like en tant que studio de développement, t'avais raté ta vie de développeur. On a bien évidemment encore le cultissime Turtle in Time qui se jouait à 4 en arcade. C'était juste dingue. Et c'est toujours le cas. Alors certes, certains jeux ils ont vieilli, même bien vieilli. Mais c'est pas grave, car rien que pour le Turtle in Time, le Tortue NES, la version Game Boy, Fall of Clank, moi à l'époque je l'avais fait, j'étais fou. Et là de le jouer sur grand écran, c'est ouf. Moi j'ai kiffé, je me suis régalé, je suis retombé en enfance. Je l'ai montré à mon fils, il m'a regardé avec des yeux. Bon, mon fils il a 13 ans, hein, donc il est jeune. Il faut monter ça à vos enfants un peu plus vieux ou qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Moi le mien, bon, hormis Rocket League, il a du mal à regarder autre chose. Ça vaut le seul. Rien que pour ces vieux jeux-là, voilà, ça vaut le coup. Cerise sur la pizza, tu peux regarder les manuels et les boîtes des différents jeux dans les options. Un peu comme Neo Geo Pocket Collection, la compile. Et surtout des différents jeux d'origine, c'est-à-dire japonaise, US, avec les covers et PAL. C'était complètement différent. Même les pubs d'époque, tu peux les voir. Ou encore tout l'univers des dessins animés en quelques photos. Écouter les musiques des jeux. Bref, le jeu est vraiment rempli de contenu. Il y a même une petite cover alternative sur la boîte. Pas de petites notices, de petits plus. Là, pour ce coup-là, on va dire que c'est le truc classique. Mais ça me fait regretter vraiment la belle époque de Konami. Parce que oui, chers amis, Konami ne faisait pas que des salles de sport avant.
Souvenez-vous.
Il faisait aussi des jeux vidéo et des grands jeux. Eh oui, mais les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas. Pour eux, Konami, c'est quoi Konami? Bref, là, voilà, c'est vraiment c'est un réel plaisir de jouer à ces différentes versions de cette franchise mythique. Et du coup, ça vous montrera à quel point les Tortues Ninja Shredder's Revenge est un hommage à tout l'univers des tortues. Maintenant, si on fait le point positif et négatif, les points positifs, évidemment, graphiquement, c'est très fidèle aux versions d'époque. Tout l'univers des Tortues Ninja de l'ère 8-16 bits en arcade dans une compilation. Plein de contenus supplémentaires, je l'ai dit. Les fonctions rewind. Ben oui, j'ai réussi à passer l'eau dans Tortue Ninja avec les bombes. Hop, tu meurs, tu reviens quelques secondes en arrière, tu refais, ah mince, j'avais oublié, c'était pas comme ça, ah mince, et hop, j'ai réussi à passer. Bon, après, j'ai galéré à avancer, mais voilà, j'ai réussi à passer. Et ça, c'est une fonction très pratique. Les filtres graphiques également. Une compilation pour les nostalgiques et aussi pour ceux qui veulent voir à quoi on jouait dans les années 80-90. Point négatif, on peut regretter, quitte à mettre du contenu en plus, de ne pas avoir les génériques des dessins animés d'époque. Oui, chipote. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûrement une histoire de droit, j'imagine. Hein. Je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que c'est ça. Certains jeux, je l'ai dit, ont vraiment vieilli quand même. En fait, certains jeux Tortue Ninja étaient un petit peu les Dark Souls avant l'heure, de par leur difficulté.
C'est des Dark Souls-like avant que ce soit sorti.
Mais grave, From Software n'a rien inventé, les gars, hein, faut le savoir. C'est tellement dur par moment. Autre point négatif, on a qu'un seul slot de sauvegarde par jeu. Et c'est vrai qu'on est habitué depuis quelques temps à 4.
C'est vrai.
Et ça te permet de partager avec ta femme, avec tes enfants, chacun à son slot. Éventuellement, hein, d'autres sont tout seuls et ça leur suffit. Voilà, ou de te faire plusieurs saves de façon. J'ai trop avancé, j'ai sauvegardé trop près et j'arrive plus à avancer. Je reviens à une sauvegarde un peu antérieure pour pouvoir évoluer.
C'est peut-être lié au fait qu'il y ait beaucoup de jeux sur la compile et le fait que, bah, comme ils doivent faire des sauvegardes pour chacun des jeux, ça fait gonfler, c'est pas impossible.
C'est fort probable, j'ai aucune idée de ça, je peux pas te dire, cher TMDJC. Est-ce que tu as des questions, cher TMDJC?
Alors, des questions, non, parce que je l'ai fait aussi, ce jeu-là, parce que moi, c'est une compile que j'attendais vraiment grandement. Enfin, tu connais
alors,
mon
avis. Alors, ton avis?
Ah oui, mon avis, écoute, il est ultra positif. Je pense que tu as brossé vraiment les trucs les plus importants. On parlait de pinaillage tout à l'heure. Nous, en tant que Français, c'est vrai que on peut comparer les jaquettes US et les jaquettes japonaises. Malheureusement, il n'y a pas ce que nous, on avait quand on était gamin, et c'est vrai que on aimerait ça un jour, vraiment une compile, parce que tout est traduit en français, hein. C'est vraiment, quand vous rentrez dessus, ça, c'est vraiment le point très positif, vous êtes pris par la main, mais il y a pas le petit truc qui fait que ah oui, c'était la jaquette que j'avais à l'époque sur ma console NES, etc. Mais sinon clairement c'est génial. Et effectivement, tu parlais de la fonction rewind, qui est un truc qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans beaucoup de jeux.
Obligatoire.
Si jamais aujourd'hui on se remet à faire des jeux qui sont un peu anciens et on n'a pas vraiment toujours le temps en tant que joueur, c'est quand même très agréable de pouvoir passer un passage difficile rapidement.
C'est obligatoire. La fonction rewind aujourd'hui pour jouer à des jeux rétro, c'est obligatoire.
Alors, deux trucs pour finir sur cette compile-là. D'un point de vue historique, c'est vraiment, rien que pour l'aspect historique, c'est vraiment très intéressant de le posséder. Et puis, je rajouterais également que si jamais vous avez la flemme de faire certains jeux, mais vous avez quand même envie de le voir, vous pouvez laisser la console jouer. Elle fait les jeux, en fait, vous regardez, et puis vous pouvez prendre la main à n'importe quel moment, de dire tiens, à partir de ce passage là je veux jouer, et vous prenez la main, et j'ai trouvé l'idée géniale.
Effectivement, je savais pas, parce que moi, dès que je lance le jeu, je joue, hein, je laisse pas le jeu tourner, hein, je suis comme ça. Voilà, c'était donc Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabanga Collection, sorti sur tous les supports. Cher TMDJC, on enchaîne avec, qu'est-ce que tu vas nous parler ce mois-ci, qu'est-ce que toi tu as testé, cher TMDJC?
Eh bien, écoute, moi, j'ai testé, alors j'ai fait même plus que tester, parce que je l'ai fait vraiment en entier, en long, en large et en travers. J'ai joué à White Knight, qui est sorti donc en édition physique sur Nintendo Switch le 4 juin dernier. Alors, le jeu, clairement, il propose d'explorer le passé macabre d'un ancien manoir, on est autour des années 30, pour résoudre des énigmes, et tout ça avec des jeux d'ombre et de lumière. Alors, pour l'ambiance, il faut le savoir, le jeu est entièrement en noir et blanc. Et quand je dis en noir et blanc, c'est pas avec des niveaux de gris, hein. C'est en noir et blanc. On est dans du ultra binaire. Il y a un parti pris graphique qui est complètement lié au gameplay du jeu, parce que vous allez passer votre temps à éclairer telle partie, ou au contraire ne pas éclairer telle autre partie pour pouvoir trouver des objets, par exemple. Donc la mécanique du jeu est complètement lié à l'aspect graphique. C'est un survival horror, c'est-à-dire que vous passez votre temps à également échapper à des spectres qui vous pourchassent. Alors je vais essayer, c'est pas facile, parce que je voudrais vraiment vous présenter le jeu, d'en dire le moins possible sur le scénario, parce que le gros plus du jeu, justement, c'est de découvrir le scénario en question. Mais il faut savoir que votre personnage que vous incarnez, on sait pas trop d'ailleurs, c'est l'un des personnages sur lequel on a le moins d'informations.
Il est vraiment piégé dans une sorte de manoir, donc c'est vraiment cauchemardesque. On est plongé dans l'obscurité constante et il faut donc vous éclairer. Et vous n'avez avec vous au départ pour vous éclairer qu'une boîte d'allumettes. Et une allumette, ça ne dure pas une éternité. Donc tu passes ton temps à gratter des allumettes et puis tu sais que tu es poursuivi, tu entends des bruits. Alors vous n'êtes pas obligé de jouer au casque, mais moi ça a été une expérience très intéressante de le faire au casque, parce que du coup avec la stéréo on entend des bruits à gauche à droite, c'est quand même vachement intéressant. Et puis le jeu pousse le vice, des fois tu as une allumette qui merde, donc en fait tu l'as grattée mais en fait elle te sert à rien, donc tu ne peux avoir maximum que 12 allumettes avec toi et des fois tu les épuises assez vite. Je me suis retrouvé sur une partie à me retrouver sans allumettes, t'es mort. Donc très important vraiment de faire attention à ça. Donc c'est un jeu d'horreur, donc vraiment, alors tout en 3D parce que je l'ai pas précisé. C'est un jeu qui est assez vieux hein, pour de vrai, parce que il est sorti très récemment sur Switch. Mais en fait c'est un jeu qui avait déjà quelques années et graphiquement tu sens que c'est pas que ça pas un jeu récent, mais une fois que t'as passé le pas t'es dedans et ça ne gâche en rien l'expérience. C'est vraiment un jeu d'énigmes, donc si jamais vous n'aimez pas les énigmes, c'est pas un jeu pour vous. Là, le jeu, il passe son temps en fait à te dire, tiens, tu vas chercher des informations pour savoir où tu te trouves, et puis t'essayes de découvrir au fur et à mesure où ça se passe et vers où tu vas aller. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie collection dans le jeu qui est très importante, qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui pour moi fait partie vraiment du plaisir de jeu. Tu vas trouver des documents sur les gens qui ont habité dans la maison, sur tiens, il y a un tueur, mais qui est ce tueur? Qui il a tué et pourquoi il a tué, et donc tu collectionnes ces informations au fur et à mesure. Moi j'ai fait le jeu en partie une première fois, je crois que je me suis arrêté au chapitre 2 ou 3 et là je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de trucs, et tu sais à quel point j'aime faire mes jeux à 100%, donc ni une ni deux j'ai recommencé une nouvelle partie, parce que il y a des endroits, une fois que tu les as passés, il t'est impossible de revenir, et donc j'ai refait le jeu complètement en m'arrêtant dans tous les aspects. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus compliqué du jeu, c'est que le jeu va vous demander à la fois de prendre votre temps pour bien trouver tous les objets et bien comprendre les énigmes, mais à la fois d'aller vite parce que vous êtes poursuivi et parce que vous n'avez pas des allumettes à l'infini. Donc si jamais vous voulez vraiment peser le pour et le contre, c'est vraiment prenez votre temps tout en allant vite. Prenez le temps d'aller vite. C'est très très compliqué et c'est un des aspects qui m'a beaucoup beaucoup plu dans le jeu. Donc je parlais donc de cette menace qui rôde dans l'ombre constamment. On ne sait pas trop au départ qui sont ces spectres et pourquoi ils veulent vous agresser, mais ça fait partie complètement du jeu. Alors point positif, point négatif. Les points positifs, l'aventure est prenante à donf. Vraiment, moi, j'ai lancé le jeu et j'avais vraiment envie de savoir jusqu'où ça allait aller et pourquoi il y avait toutes ces histoires. Évidemment, je ne vous parle pas du résultat. Il y a un petit twist à la fin, mais je n'en dis pas plus. Il y a un vrai lore, c'est-à-dire que si jamais vous prenez le temps de lire tout ce que vous récupérez, il y a une vraie histoire à découvrir derrière. Il y a un parti pris graphique, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une OST que je trouve géniale. OST en fait qui est à la fois prise dans des moments du jeu qui sont diégétiques et extra-diégétiques, c'est-à-dire qu'il y a des moments le personnage principal entend des choses, vous les entendez également, et puis des fois c'est juste la musique d'accompagnement, et tout ça est mélangé de manière très positive. Alors les points négatifs, il y a des gros problèmes de caméra à certains moments, et ça c'est vraiment frustrant, parce que il y a un moment donné t'as l'impression, t'as bien compris comment fonctionnait le personnage, et c'est des plans fixes, tu changes de plan et là tout d'un coup t'es en train d'avancer, ton personnage se met à reculer, et si t'es poursuivi, ça c'est vraiment pas agréable, parce qu'à un moment donné tu te dis là je me suis fait choper, j'ai perdu, pas parce que j'ai été mauvais mais parce que la caméra m'a mis des bâtons dans les roues. Ça c'est un des aspects qui m'a vraiment rebuté. Et puis il y a quelques bugs sonores à certains moments. Il y a un moment donné je me suis retrouvé sur une partie à ne plus avoir certains bruits. Bon, j'ai coupé la console, j'ai relancé, le bug était passé, pas de problème, mais sur le moment du coup évidemment ça te sort de l'expérience. Donc globalement moi c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé faire, et je vous donne un tips que je ne savais pas et que j'ai découvert en faisant le jeu. Si jamais vous finissez le jeu le jour de la pleine lune, vous n'aurez pas la même fin que si jamais c'est pas le cas.
D'accord. J'ai deux questions pour toi. Ouais. La première, au niveau des énigmes, est-ce que elles sont hardcore ou ça reste gérable?
Alors c'est compliqué ce que tu appelles hardcore, parce que suivant les types de joueurs, ça va pas être tu vois, par exemple FQPH adore les jeux à énigmes, clairement je précise, FQPH est une podcasteuse avec qui je fais régulièrement des choses, pour elle c'était vraiment très simple. Moi il y a certaines énigmes qui m'ont demandé vraiment de me poser, de réfléchir en me disant ok, ben où est caché ce truc, pourquoi je trouve pas la clé, donc j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la salle et puis il y a un objet que j'avais pas vu qui m'a donné un indice pour aller. Donc je pense que ça dépend complètement de votre capacité à digérer les informations qui vous seront données. Mon conseil, c'est que tout ce qui est marqué n'est jamais marqué par hasard.
Très bien, dernière question, moi tu sais je suis de Team Flippette, tu as dit c'est un jeu d'horreur. Est-ce qu'il fait... T'as eu beaucoup de jumpscares ou ça va?
Non. Alors pour moi, pas du tout. Je pense que c'est vraiment un jeu qui est très accessible. Le stress vient plus des fois du nombre de spectres, surtout vers la fin, qui vont vous agresser en même temps, plutôt que le côté terrifiant. Il y a dans le jeu, en tout et pour tout, il doit y avoir 3 jumpscares qui sont scénarisés, où à un moment donné, tu as vraiment des scènes qui sont cinématiques, où là, c'est vraiment... Le but du jeu, c'est de te faire peur. Mais moi, bouffant énormément de films d'horreur ou de genre de trucs, c'est vrai que je suis pas sensible à ce genre de choses. Je sais que ça peut faire peur à certains, mais il y a pas de scène vraiment, il y a pas de sang, il y a pas de choses comme ça, ou en tout cas le sang, comme il est en noir et blanc, il y a rien de terrifiant.
D'accord, ça passe. Ok, parce que bon, j'ai reçu Torment Soul également de Just for Game, j'avais commencé à le streamer, et c'est pas possible.
Non, je pense qu'on est loin de ça.
Très bien, c'était donc White Knight qui est sorti en version boîte sur Switch. Je te propose qu'on passe à l'interview du mois.
Eh bien, ce mois-ci, Terry et moi, nous recevons EMB.
Bonjour, cher EMB. Est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, Edouard, EMB. J'ai une chaîne YouTube et une chaîne Twitch aussi. Je fais de l'actualité de jeux vidéo et des jeux vidéo et... Et je kiffe. je pense qu'en fait c'est le maître mot, c'est partager du plaisir et prendre du plaisir. Même si ça résume beaucoup de choses dans la vie, mais voilà.
Alors tu traites de toute l'actualité du jeu vidéo du lundi au vendredi à 7h, c'est un sacré rythme quand même. Comment est-ce que tu gères ton temps ?
C'est surtout que je fais pas que ça, parce que comme je disais juste avant, je fais aussi du stream, je fais des let's play, je fais des tests de jeux vidéo, plus évidemment l'actualité. Donc en vrai, c'est une organisation qui s'est mise en place petit à petit. J'ai la chance de recevoir des communiqués de presse de beaucoup de boîtes, et puis je gère aussi les flux RSS des sites américains et des sites mondiaux sur lesquels je peux récupérer un peu des news. Donc en vrai, c'est un travail du matin 7h jusqu'au soir 19h. J'essaye de m'aheurer au maximum. Voilà comment je gère mon temps. En vrai, au jour le jour, quelque part, même si j'ai des créneaux de 7 à 19 tous les jours, puis après, en fonction des sorties, en fonction des envies aussi, parce qu'il y a des fois j'ai envie de streamer peut-être 3, 4, 5 heures, d'autres jours ça va être 2, 3 heures sur certains jeux. Donc en fonction des sorties, en fonction des news, je mets plus de temps dans ce qu'il faut.
Tu es en fait ce qu'on appelle un influenceur, en quelque sorte. Et d'ailleurs, à cause de toi, j'ai eu des problèmes avec ma femme, parce que j'ai quand même acheté le dernier fauteuil Razer.
Et très bien.
Que tu avais fait tester. Oui, oui. Ah oui, non, mais moi, je suis content. Ma femme, moins, m'a disputé. J'ai dit, c'est pas de ma faute.
mais au moins, tes lombaires vont bien.
Exactement. Et pour même pousser le vis, j'en ai acheté un deuxième, tu vois, pour mon fils dans la salle de jeu.
Incroyable. Vous êtes deux à avoir des bonnes lombaires.
Exactement. Est-ce que tu as un souvenir, peut-être une anecdote lors d'un montage, d'un enregistrement, ou si tu as été en convention, quelque chose qui t'est arrivé de marrant, de bien
Ouais, alors sur un montage de vidéo, tu veux dire, je suppose.
Oui, bien
pas
sûr.
De chaise.
Bien sûr.
Tu parles de ta chaise avant, mais si ça se trouve, c'est un montage de chaise, je sais pas.
Non, oui, dans la vidéo de la chaise, on te voit te lancer en arrière où tu es avec les roulettes. Je me rappelle bien.
En vrai, ouais. Sur les enregistrements, j'en parle de temps en temps, mais ça m'est déjà arrivé. Alors, c'est pas forcément drôle, mais de temps en temps, il y a des vidéos qui me saoulent. Et à de multiples reprises, je commence à enregistrer la vidéo, je tourne 10, 20, 30 minutes. Il faut savoir que les gaming news de matin, par exemple, qui durent 15, 20 minutes, ça m'arrive souvent de les enregistrer, ils durent 40 minutes, 1 heure. Donc, je découpe beaucoup dedans parce que je parle trop, c'est mon problème. Du coup, il y a des fois, j'enregistre des vidéos et en fait, je finis ou alors je l'arrête au milieu parce que ça me saoule et la vidéo ne sort jamais. Donc il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos que j'ai enregistrées qui sont jamais sorties parce que je les ai jamais terminées, parce que j'avais pas envie de me forcer. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà faire du, enfin partager du plaisir et prendre du plaisir. Sans ça il y a pas de plaisir. Et alors une anecdote mignonne, je pense que tu parlais de convention. Je pense que l'anecdote la plus mignonne, c'est la première fois que j'ai signé un autographe, parce que, enfin voilà, moi je considère que je suis personne, juste un mec qui aime bien partager des jeux vidéo sur internet. J'étais pour ma première convention, c'était la Paris Games Week, et il y a un petit garçon qui vient avec un petit carnet, et il vient me voir et il me dit: ah EMB, trop content de te voir et tout, est-ce que tu peux me signer un autographe? Moi j'ai jamais signé l'autographe parce que je considère que je suis personne et que, enfin voilà, j'ai jamais fait ça. Et donc je prends son petit carnet et puis j'écris juste EMB au milieu d'une page blanche, parce que je sais pas comment on fait, tu vois. Donc j'écris EMB au milieu d'une page blanche et je lui rends, et tu vois, je vois des petites étoiles dans ses yeux, trop heureux, son papa vient le récupérer et tout, parce que son papa derrière, et puis il repart. Et puis le soir en rentrant chez moi, je me dis: mais en fait ce petit gars qui était trop mignon, finalement il a juste un carnet avec marqué EMB au milieu d'une page blanche. Et en fait du coup j'ai réalisé après, parce que j'ai regardé à Paris Games Week, je me suis un peu baladé, bah, ils écrivent un petit message, ils écrivent un petit truc, sauf que bah du coup moi j'ai juste écrit EMB comme ça au milieu d'une page. Donc je me suis trouvé à la fois ridicule et à la fois j'ai trouvé ça mignon, parce que c'est la première fois qu'on me demandait un truc comme ça. Et deuxième anecdote, j'avais été, c'était Japan Expo, Paris Games Week, je sais plus, invité par Nintendo sur scène, c'était pour présenter Mario Maker 2. Donc j'étais monté sur scène, c'est la première fois que je faisais ça à la Japan Expo, je crois. Donc il y avait plein de monde et tout, donc j'étais un peu impressionné, parce que j'ai pas l'habitude, hein, on n'a pas l'habitude quand on est derrière une caméra chez soi, même si c'est impressionnant de parler à des gens, c'est pas la même chose quand on est sur scène.
C'est autre chose.
Ah ouais, totalement. Donc du coup, voilà, impressionné, je monte sur scène, etc. Et ça devait être au début de la chaîne, ça devait faire 2 ou 3 ans, maintenant ça en fait un peu plus de 5. Je monte sur scène, je fais tout ça, déjà un peu stressé. Puis je retourne dans les loges derrière pour rendre le micro à la régie. Et puis j'ouvre la porte de la régie et je vois une ligne avec plein de gens qui étaient en ligne. Et puis j'ai mon meilleur pote qui était devant la porte, je lui dis: mais qu'est-ce qu'ils attendent tous ces gens-là? Et il me dit: bah ils sont là pour te parler. Et en vrai, tu vois, c'est à ce moment-là où tu dis, c'est fou. Et puis, il y avait des gens de tous les âges, il y avait des gens de vraiment, c'était juste... Enfin, moi, ça m'a énormément touché. C'est vraiment un truc, la première fois où il y avait plusieurs personnes comme ça, IRL, qui attendaient pour pouvoir juste discuter. Et c'était trop, trop chouette. Donc voilà, c'est plutôt une anecdote mignonne de mon côté, mais c'est la première fois où je me suis dit, enfin, c'est trop cool, en fait, de faire ça. Parce que du coup, tu rencontres des vrais gens. Tu le sais que c'est des vrais gens quand tu fais des vidéos, mais tu as des commentaires qui défilent. Et je pense que des fois, quand tu ne prends pas le temps de sortir, quand tu ne prends pas le temps d'aller échanger vocalement, tu en perds un petit peu, tu en perds un peu la substance. Et donc, voir des gens comme ça qui étaient regroupés juste pour discuter, bah, c'était trop chouette.
Voilà. Dans le sens réel du terme, parce que du coup, effectivement,
voilà, dans le sens réel du terme.
Sinon, ce ne sont que des mots sur un écran.
C'est pas que ce ne sont que des mots, parce qu'évidemment tu le sais qu'il y a des gens, et de même que moi je me suis jamais arrêté aux chiffres sur des vidéos sur la chaîne, parce que pour moi c'est pas des petits 1, c'est des vrais gens, mais c'est vrai que quand t'es chez toi tu te rends pas compte de l'ampleur de la chose, c'est la prise de conscience, et tu te rends pas compte, parce que des fois il y a des gens qui disent: ah, il y a pas beaucoup de monde sur ton stream, et tu vois, toi t'es à 150-200 personnes, tu te dis, bah enfin moi je trouve ça énorme, t'imagines 150-200 personnes autour de toi, c'est fou. Mais donc du coup petit à petit tu te dis: ouais bah c'est cool, j'ai 200 personnes sur le stream. Mais quand tu vois 200 personnes pour toi dans un endroit, tu te dis: waouh, c'est quand même autre chose. Et c'est fou, en fait, hein, ce genre de truc.
Oh bah carrément. Hein.
Alors, si on repart un petit peu dans le passé, du coup, comment s'est passée ta découverte du jeu vidéo?
J'étais tout petit. J'ai un grand frère qui avait la Game Boy, la grosse Game Boy grise. Je pense que c'est vraiment ma console de cœur. Et il y avait Tetris. Et je me souviens, c'était Tetris, Tom et Jerry et Astérix sur Game Boy. Et en vrai, je crois qu'un jour, je lui ai piqué. Je m'étais réfugié dans ma chambre, je m'étais allongé par terre sur mon petit tapis, et j'avais passé, honnêtement, dans ma tête c'était plusieurs heures, mais à tous les coups c'était 10-15-20 minutes la première fois, mais je me souviens avoir passé tellement de temps sur Tetris. Pour moi, la découverte du jeu vidéo, ça a été la grosse Game Boy grise en noir et blanc avec Tetris et la fameuse petite musique qui est restée en tête. Et qui reste encore maintenant en tête et qui l'y est toujours.
Bon bah du coup, ta première console, forcément, tu viens d'y répondre,
Game Boy Games. C'est la Game Boy frigo.
Surtout la fat, voilà.
La Game Boy, la fat, ouais.
Ouais, mais là, du coup, c'est celle que t'as piquée à ton frère, mais ta vraie première console, c'était quoi ?
La mienne ? Celle que. Celle qu'on m'a. Que je lui ai achetée moi-même ?
Oui, ou offert, la première à toi, quoi.
Bah, en vrai, ça a été la Game Boy Color juste après. Mes parents, en fait, on n'avait pas énormément d'argent quand j'étais petit. Et du coup, bah, on n'avait pas beaucoup de consoles de salon. On a eu la PS2 très tard, quand mon frère a pu se la payer lui-même. On a eu la NES à la maison, mais on n'a pas eu en fait toutes les consoles de salon. Moi, j'allais chez des potes pour jouer aux consoles de salon ou chez mon cousin qui avait toutes les consoles. Donc en fait, c'était plutôt console portable d'appoint. Tu sais, genre vraiment, on jouait dans notre chambre. Mmh. Mes parents, enfin, ils n'étaient pas trop télé en fait quand j'étais petit. On n'avait pas. Déjà, il y a eu. Je suis né dans les années 90, donc ça arrivait petit à petit tout ce qui est TNT, tout ça. Mais je sais que voilà, on n'avait pas tout ce qui était télé. Et donc du coup, ça a été vraiment console portable, donc je dirais la Game Boy Color. Et ça a été, je me souviens, ma Game Boy Color préférée, c'était la Game Boy Color Pikachu à l'époque. Voilà.
Mais ouais. C'est quoi ton profil de joueur dans le sens, en fait, c'est quoi tes types de jeux, comment tu règles ton curseur par rapport aux jeux vidéo?
En vrai, je joue vraiment à tout parce que j'aime le jeu vidéo dans sa globalité, et donc du coup m'arrêter à un seul type de jeu, c'est un peu dommage. Après, j'ai des préférences, évidemment. Tu vois, par exemple, des jeux de stratégie tour par tour comme XCOM, qui est mon jeu préféré. Alors, je sais pas si je devance une question pour plus tard, mais en tout cas XCOM, c'est mon jeu préféré, donc forcément les jeux de stratégie au tour par tour, c'est vraiment mes petits bébés. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les RPG. Je suis vraiment quelqu'un qui tu me mets un système d'expérience dans un jeu, j'adore. C'est vrai que depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux jeux indépendants. Je trouve qu'il y a une vraie plus-value, il y a un vrai supplément d'âme dans ces productions indépendantes. Je ressens en fait ce que les petits développeurs, ils mettent leur cœur, ils mettent leur âme dans ces créations. Donc voilà, du plus gros jeu AAA que je vais apprécier beaucoup, comme un jeu de voiture à la Forza ou un God of War, à un petit jeu indépendant comme un Hollow Knight ou même un Tunic qui est sorti assez récemment. Je joue vraiment à tout. Vraiment, c'est vraiment c'est aussi pour ça que je traite de l'actualité de toutes les plateformes. Mmh. Même si Nintendo, c'est un peu mon origine quelque part. Je m'intéresse vraiment à tout parce que je considère que se fermer l'esprit sur ne serait-ce qu'un seul domaine, c'est dommage et c'est vraiment occulter un pan tout entier de cette culture finalement vidéoludique.
Du coup, je pense à un truc là, parce que tu dis que ton type de jeu, malgré tout, favori, ça reste le stratégie tour par tour, donc j'imagine que t'as parlé de XCOM, mais Fire Emblem, ça, tu dois beaucoup apprécier également. Est-ce que ça te fait pas mal au cœur, le Fire Emblem en mode Musou ?
Non. En vrai, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose de différent. Et puis voilà, je pense que tant qu'ils abandonnent pas la licence principale et qu'ils gardent qu'ils gardent ce qu'ils avaient fait sur Tree Houses par exemple, et qu'ils nous font un Tree Hops derrière, non, je considère que c'est intéressant, comme ils l'ont fait par exemple avec Zelda ou alors avec One Piece, Pirate Warriors, etc. Non, c'est intéressant. Après, moi j'aime bien parce qu'il y a un système d'RPG dedans aussi. Puis ils ont gardé en fait le sel de Fire Emblem. Ils ont gardé un peu de stratégie, même si c'est pas folichon. Mais non, c'est intéressant parce que c'est un défouloir, c'est un style complètement différent, mais non, ça me fait pas mal au cœur. Non, vraiment, je trouve ça intéressant.
Ta console préférée ever, ou ton matériel peut-être même, puisqu'on parle de console, mais vu que t'es un joueur stratégique, tu seras peut-être plus PC, je ne sais pas.
Je joue sur PC aussi. Console préférée
ever.
la grosse Game Boy grise. En vrai, grosse Game Boy grise parce que en vrai, j'y joue encore. Tu sais que je joue encore à Tetris dessus. Ça m'arrive à mettre mes 4 piles dedans et à jouer à Tetris. En vrai, c'est beaucoup de nostalgie aussi. C'est comme maintenant on parle beaucoup de remake, on dit ouais, je voudrais le remake de tel jeu, et finalement on se rend compte quand on joue au remake que ça a pas la même saveur qu'à l'époque parce qu'on a grandi, parce qu'on a vieilli et que on a changé. Mais ouais, c'est très nostalgique. Ma console de cœur, c'est vraiment la Game Boy grise, vraiment, parce qu'elle est entourée de souvenirs, parce que elle est entourée des souvenirs familiaux. C'est une Madeleine de Proust en fait, si on veut.
Effectivement.
Bon, monsieur MB, on arrive à un moment grave parce qu'il s'agit de notre dernière question, et c'est la dernière question très très compliquée, parce que je ne sais pas si tu as prévenu ta famille. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire tout de suite. Nous allons t'emmener sur une île déserte où malheureusement tu ne pourras jouer qu'à un seul jeu sur une seule console. Quel sera ce jeu?
XCOM déjà. En vrai, soit XCOM, soit Tetris, c'est difficile de choisir. En vrai, en plus sur une île déserte.
Ouais, ça veut dire que c'est internet, que pendant un temps donné.
Allez, ouais.
Il y a internet ou des prises,
hein? Les deux, parce que tu peux recharger ta console quoi qu'il se passe si c'est une console portable.
Ah, je peux recharger ma console.
Ouais. Et si c'est une console de salon, tu as évidemment l'écran de télévision qui va avec.
Ok, bah à ce moment-là, je prends une PS Vita et comme ça, je sais que je peux me mettre XCOM dessus et je peux me mettre des. J'aime pas le faire, mais genre, je me mets de l'émulation. Si je sais que je vais être abandonné sur une île déserte pour toute ma vie, je mets de l'émulation sur une PS Vita et je me prends. Je sais même ce que je passe complètement à côté de la question de un jeu, tu vois. En même temps, t'as dit une console. Non, mais sinon, Game Boy Gris et Tetris, mais sinon, je me prends une PS Vita avec toutes les petites pépites qu'il y a dessus. PS Vita qui a été. Malheureusement très boudé alors que c'est une console incroyable.
Ah, ça, là, je pense qu'on est tous les trois d'accord.
Oui, complètement. Eh bien écoute, il nous reste plus qu'à te remercier de nous avoir accordé un petit peu de ton temps au combien très précieux. Et,
c'est moi qui vous remercie, parce que c'est trop chouette de répondre à des questions comme ça.
À très bientôt alors, tout simplement.
Eh bien merci beaucoup, c'est super gentil.
À très vite.
Merci.
Stray est sorti le 20 septembre sur PS5 avec 6 cartes incluses dans la boîte. Alors pour rappel, on incarne un petit chat tout mignon dans un univers cyberpunk. C'est un TPS et le jeu a vraiment une histoire très sympa avec des énigmes. C'est clairement, pour moi en tout cas, la claque de la rentrée. J'en reparle tout à l'heure et il n'est pas impossible un jour que j'en fasse un focus.
Il me donne effectivement très envie ce jeu. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais clairement, il me donne excessivement envie. Puis quand il est sorti en démat, il a fait le buzz. Et donc là, la version boîte, on va y passer. Un autre jeu qui moi m'avait complètement scotché à sa sortie je suis ravi qu'il arrive en boîte. Into the Breath, sorti le 21 octobre en boîte sur Switch. C'est une version physique inédite qui contiendra en plus du DLC avec l'Advance Edition déjà chargé sur la cartouche. Des bonus physiques pour les joueurs conquis comme pour les nouveaux venus, un mini guide papier, une affiche du jeu, ainsi qu'un code de téléchargement pour la bande son. Pour rappel, c'est un tactical en tour par tour, on dirige une équipe de 3 mechas contre des vagues de monstres sur des maps tout en protégeant usines électriques et autres bâtiments, bureaux, et on va améliorer son armement au fur et à mesure, tout en 2D de la... Magnifique. Pour que tu vois un peu, je sais pas si tu te rappelles, alors, faut avoir un certain âge pour reconnaître le jeu.
Attention à ce que tu veux dire.
Populous, tu vois,
oui,
c'est un peu en 3D isométrique, tu vois, en vue. Voilà, c'est ça. Et en plus, dans les décors, dans les maps, suivant les maps, tu vas avoir l'environnement qui va interférer, les éclairs, l'orage, l'eau qui va monter progressivement. Donc, tu vas essayer de pousser les ennemis dans l'eau ou ils vont te pousser dans l'eau, ce qui fait que ça va t'empêcher de tirs et ainsi de suite. Vous avez des capitaines qui ont chacun leurs aptitudes que vous pouvez débloquer au fur et à mesure dans le jeu. Des mechas, il y a des mechas à débloquer et ainsi de suite. Excellent jeu.
Zem Fighting Herds, un jeu de combat en 1-1 avec, oui, parce que je suis resté dans la même thématique, avec des animaux à quatre pattes. Oui. Il est sorti le 30 septembre sur PS4, PS5, Xbox Series et Switch en version deluxe qui inclut le Season Pass, à savoir 4 persos, 4 niveaux en plus, des accessoires pour les persos et plein de petits trucs rigolos. Alors attention, ne prenez pas ce jeu à la rigolade. Il a été présenté à l'Evo 2021. Pour rappel, c'est l'un des plus gros events de compétition de jeux de combat de l'année qui se passe aux USA. Le jeu aura du rollback au niveau du netcode, il sera cross-platform, ça c'est super important, et en termes de gameplay, ça rappelle un petit peu Marvel versus Capcom ou encore Skullgirls, que des bons jeux.
Exactement, et moi on en rigole parce que graphiquement c'est tout mignon, kawaii, on incarne des licornes, des choses comme ça en termes de personnages, mais en termes de gameplay, le jeu il a l'air lourd, hein.
Il a l'air très très lourd, ouais. C'est beaucoup d'enchaînements, de chaînes combo. Il y a des trucs vraiment très très sympas. Le but du jeu, évidemment, ça va être de trouver quoi enchaîner avec quoi pour faire le plus de dégâts possible.
Allô Thibaut ? Ouais, c'est moi qui ferai le focus sur ce jeu le mois prochain.
Enfoiré.
c'est fait. Voilà. Ouais,
tu l'as dit en premier.
Mais bref, et on rappelle, l'Evo, c'est pas rien. Hein. Comme tu l'as dit, c'est la plus grosse compétition mondiale de jeux de combat. Il a été présenté là-bas, donc c'est pas rien. Et Cocorico quand même, hein, cette année on rappelle à l'Evo, c'est les Français qui ont défoncé tout le monde à Dragon Ball FighterZ et ça fait plaisir.
Waouh, avec nous.
Grave. On continue avec No More Heroes 3 qui arrive sur PlayStation 5 et Xbox, je vais y arriver, le 14 octobre en édition physique Next Gen qui comprend une toute nouvelle illustration de l'artiste de la série, Yusuke Kozaki, pour la jaquette, 3 cartes artistiques et un poster double face représentant Travis et son fidèle Damson Tiger. Pour rappel, on incarne Travis Touchdown, un assassin otaku qui est armé de son sabre laser et qui va se battre contre des gens plus déjantés les uns que les autres, même des super-héros de l'espace. C'est une licence qui avait démarré sur Wii à l'époque, on se rappelle.
Tout à fait,
hein, voilà, et qui est arrivé, qui a fait, il y a eu le premier épisode, le deuxième épisode sur Wii, le troisième est arrivé au départ en exclu sur Switch.
Oui.
Et là, il arrive en version boîte, donc sur les autres générations de consoles. Ça fait plaisir.
C'est une licence très intéressante.
Complètement barré.
Ultra Mega Extra Party Challenge. C'est un nouveau party game délirant jouable jusqu'à 4 joueurs en local et en ligne, en coop ou en versus. Et il y a même un mode solo d'ailleurs dedans. Il y a plus de 100 mini-jeux dedans. Il sortira en exclusivité sur Nintendo Switch. Alors oui, je le dis en exclusivité parce que de toute façon, le gameplay est intrinsèquement lié à la console, hein, on ne peut pas y jouer
clairement.
Autrement. Le 7 octobre 2022, il y a une démo publique d'ailleurs et gratuite qui est déjà présente, si jamais vous avez envie de tester, sur l'eShop de la Nintendo Switch.
Tout simplement. Alors nous, on l'a testé, hein, Just For Game nous a envoyé une version du jeu. C'est vrai que c'est assez marrant et original. Maintenant, on n'a pas pu tester le online parce que, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le online n'était pas encore disponible.
Non, on a fait test solo, test partie à plusieurs. Moi, j'aurai l'occasion d'y rejouer un petit peu dès la semaine prochaine. Donc, on vous fera peut-être un retour un peu plus tard.
Le coop et versus, c'est complètement différent. Hein. C'est pas le même délire. Hein. Le coop, on essaye tous ensemble contre, entre guillemets, l'ordinateur. Alors que le versus, tu vas pas aider le copain pour qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T. Et sinon, c'est dans l'esprit de WarioWare, hein, tout simplement. Hein,
pour, les lapins crétins, voilà. Mais avec un parti pris graphique très, très français, c'est marrant. Mais ça, on y reviendra.
Et le mode solo, vous démarrez, vous êtes un mec tout maigre. Et au fur et à mesure de faire les mini-jeux, ton personnage se muscle. D'abord un bras, puis l'autre, une jambe, le torse, et ainsi de suite. C'est assez original. Je te propose qu'on arrive à une petite partie d'émission très sympathique.
Oh oui. Ce mois-ci, si jamais vous avez envie de l'acheter, on a un petit code promo pour Stray. Et Stray, j'en parlerai tout à l'heure, c'est vraiment un chouchou pour moi en ce moment. Et le code, vous allez voir, il est vraiment très très simple. Parce que le code, c'est Miaou en majuscule. M-I-A-O-U, Miaou. Et si jamais vous tapez Miaou, vous avez le droit à 5€ de réduc. Donc, jetez-vous dessus, j'ai envie de vous dire. Franchement, vous n'hésitez pas à stresser de la bombe.
Et cette fois-ci, il y a du stock, on nous a dit. On nous a confirmé. Parce que malheureusement, on a eu des retours d'auditeurs qui nous ont dit « J'ai voulu commander Pokémon Rocky sur PS4, c'est déjà en rupture. Ah, désolé, il est que sur Switch en ce moment. » Donc là, cette fois, pas de souci. Thibaut nous a assuré « Les gars, il y a du stock, on peut y aller. Lâchez-vous. » Donc voilà. Et en plus, c'est un jeu petit prix, hein, on rappelle, hein, quand même, un Stray, et avec une ambiance de fou. Avec un petit code, que demander de plus ?
Ah bah que demande le peuple ?
On arrive à la rubrique des éditions signature de Just For Game, qui est en fait la rubrique des éditions collector qui sont arrivées au sein de Just For Game. Et ce mois-ci, cher TMJC, c'est toi qui vas nous parler de White Knight Deluxe Edition sur Nintendo Switch. J'en ai fait ton focus et maintenant c'est la rubrique
tout
collector.
À fait.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Montre-moi, je veux tout savoir.
Tu veux toi qui en plus me vois en direct, tu vas pouvoir le voir en direct. Mais pour expliquer à nos amis auditeurs et auditrices, donc Just For Games m'a fourni la version collector de White Knight. Donc évidemment, il y a le jeu, ça c'est un petit peu la base. Il y a l'OST dans un magnifique coffret. Et l'OST, elle est vraiment très 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 bien. Donc elle se partage en deux parties. Et tu as une partie qui est en musique vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un CD audio et l'autre en fait qui va vous permettre tout simplement de profiter de la musique, mais dans une ambiance. C'est très très sympa à regarder et la pochette est vraiment vraiment très très belle.
Elle est très belle effectivement. Tiens, à quoi ça me fait penser à l'époque Game One.
J'y ai pensé en lançant le DVD parce qu'il s'agit d'un DVD. J'y ai pensé.
J'aimais bien à l'époque.
Tu as Artbook, donc Artbook qui va reprendre les scènes principales du jeu sans te spoiler, ça j'ai bien aimé, et avec graphiquement en fait ce qui leur a permis de tout simplement de faire le jeu.
Croquis,
donc le jeu, je disais tout à l'heure, il y a plein de choses à collectionner, mais il va y avoir des photos, des dessins et donc tous les aspects donc de création du jeu, on va les trouver au fur et à mesure. Franchement, c'est un très chouette cadeau, sachant que là
Le artbook en question est vraiment, c'est un petit artbook, ça doit être du A5 si je dis pas de bêtises, mais ils ont fait le choix de le mettre au format paysage, ce qui fait que tu profites vraiment des dessins au format paysage, parce qu'il fallait quand même que ça rentre dans la boîte évidemment. Et puis pour terminer, tu as une petite carte postale qui reprend, alors je ne vais pas dire qui exactement parce que sinon je spoil un truc, donc je n'en dirai pas plus.
Dis rien.
Voilà, mais la carte est vraiment très très belle. Et elle reprend vraiment l'ambiance du jeu, à savoir que si le jeu, lui, est en noir et blanc, les trucs qui sont à collectionner, eux, sont souvent en couleur et reprennent un format vintage un peu dégueulasse. Alors moi, c'est graphiquement un truc, je surkiffe ce type d'ambiance. Pour donner à penser, les imageries un peu qu'on avait dans des films comme Seven par exemple, au format des couleurs, c'est très sépia, avec des choses qui sont vieilles, passées, abîmées, déchirées, recollées des fois. C'est un peu l'ambiance. C'est tout à fait moi, c'est exactement moi.
C'était gratuit, c'était nul, je suis d'accord. On arrive à la chronique Les Vinyles du Mois, où on va s'écouter un petit morceau. Et ce mois-ci, TMDJC, décidément, tu as beaucoup travaillé. Qu'est-ce que c'est que tu nous as sélectionné ?
Alors, ça a été très très simple de faire un choix, puisque Double Dragon, j'ai envie de te dire. Mais alors, après, le problème, c'est que j'hésitais entre Double Dragon 1 et 2. Alors finalement, je me suis dit, si on sortait pas un vinyle où il y a les deux dessus directement. Et puis voilà.
Ah, c'est toi qui sors les vinyles. D'accord.
Ah, maintenant, c'est moi qui fais tout maintenant. Monsieur, tu peux m'appeler Just for Games.
Je te propose qu'on écoute un morceau.
Allez. Je vous parle de cette OST de Kazunaka Yamane qui, pour ceux qui ont déjà joué à Double Dragon 1 ou 2 sur NES, vous ne pouvez que reconnaître directement cette OST de malade. OST qui a inspiré quand même, mine de rien, pas mal de compositions des années 90 par la suite. Je pense notamment que certains Beats and Mall, je ne donnerai pas de titre, ont quand même pas mal puisé dans ce qui avait été fait là-dessus.
Bon, même le jeu, de toute façon, le jeu a également inspiré beaucoup de jeux par la suite, je pense que c'est musique, jeu, dans la totale, là, Double Dragon, la licence a inspiré beaucoup de créateurs.
Donc là, on vous propose de revivre les musiques classiques de Double Dragon 1 et 2, donc qui sont présentées dans une seule édition. Elles sont, parce qu'il y a deux versions qui existent. Vous avez une variante de couleur où vous prenez la Jimmy Edition Red, qui évidemment, vous l'aurez compris, est en rouge, ou alors on part sur la Bailey Edition Blue. Et là, dans ce cas-là, évidemment, tout ça est bleu. Alors ça ne change pas que le vinyle, ça change également la pochette, donc c'est vraiment deux éditions différentes. Bon courage pour les collectionneurs. En tout cas,
mais c'est le même contenu.
Ah, c'est exactement
revanche.
Le même contenu, voilà. À l'intérieur. Ce sont les mêmes musiques. Là, on est vraiment sur les mêmes choses. C'est vraiment, par contre, deux éditions différentes. Vinyle 180 grammes, ça, vous commencez à avoir l'habitude là-dessus. C'est une jaquette épaisse avec des illustrations recréées et une description du jeu. Pochette de qualité supérieure, imprimée recto verso avec des dragons dorés à l'intérieur, doublé or, s'il te plaît.
C'est magnifique.
Il y a également un bandeau apporté dont la couleur est coordonnée à celle du jeu, vous l'aurez compris, qui comporte les textes du titre japonais.
Non, c'est magnifique.
Petite précision, la pochette de l'album a été créée par Gonzalo Ordonez, et les illustrations de la pochette, c'est Shana 3 Records qui s'en est chargé.
On arrive à la recommandation podcast, donc c'est le coup de cœur gaming ou autre qui vient de l'univers de Just for Games, par toi ou moi. Et ce mois-ci, cher TMDJC, c'est toi qui va nous parler de
Stray. Oui, décidément, je vous parle beaucoup de Stray aujourd'hui, mais c'est pas un hasard, en fait, si c'est Marocco. Et je vous dis, il est fort probable que j'en fasse un focus dans les émissions à venir. En tout cas, je le disais tout à l'heure, c'est un jeu vidéo d'aventure à la troisième personne dans laquelle on incarne donc un chat errant dans une ville cyberpunk, peuplée de robots. Et c'est tout ça développé par Blue 12 Studio. D'ailleurs, les cofondateurs du studio qui se trouve à Montpellier, Kula et Vive, voulaient poursuivre un projet indépendant après leur passage chez Ubisoft. Et là, ils sont partis sur un jeu totalement futuriste où vraiment on incarne un gentil félin tout perdu dans une ville fortement inspirée esthétiquement par la citadelle de Kowloon. Pour rappel, en fait, c'est une alors ça n'existe plus, mais c'est une cité chinoise qui était située à Hong Kong, donc vraiment enclavée, et c'est des immeubles qui sont les uns sur les autres. C'est esthétiquement, c'est vraiment, bon, ça, vous allez voir, hein, quand vous allez, si jamais vous lancez le jeu, vous ne pouvez pas ne pas y penser. Et donc c'est habité, je le disais tout à l'heure, par des gentils robots humanoïdes, et les comportements du chat, bah, ils ont été calqués sur les chats des fondateurs, Motov et Riggs, référence évidemment, vous l'aurez compris, à l'arme fatale. Oui. Le jeu utilise l'Unreal Engine 4 et c'est vraiment topissime. Alors le jeu, j'en parlerai dans un focus, hein, il n'est pas exempt de défauts, mais il est tellement bourré de qualité et vraiment de mignonnerie que c'est difficile de pas tomber sous le charme du jeu.
Mais c'est vrai que c'est vraiment le jeu qui a fait le buzz à sa sortie, clairement. Et là, il va rebuzzer avec la sortie boîte. Vivement, vivement de l'avoir entre les mains, ce jeu. Il a l'air hyper bien.
Et on arrive maintenant sur le coup de cœur venu d'ailleurs. Et sauf erreur de ma part, cette fois, Terry, c'est toi qui t'y colle. Alors, on rappelle la chronique. Hein. L'idée, c'est de parler de ce qu'on trouve à l'extérieur et qui nous a touché d'une manière ou d'une autre et qu'on avait envie de vous proposer au sein du podcast Just for Games.
Exactement. Et ce mois-ci, alors c'est vieux, hein, évidemment. Hein, je vais vous parler de Returnal. Je l'ai acheté cet été. Donc, c'est une exclue qui est sortie sur PlayStation 5 en 2021. Ouais, je suis d'accord. C'est vieux, mais je m'en fous, j'ai envie d'en parler, voilà, je parle, j'ai le droit, laissez-moi parler. Il a été développé par Housemarque, donc c'est un TPS roguelike. On incarne une femme cosmonaute qui atterrit sur une planète étrange et elle doit essayer de s'en sortir. Pour ça, elle aura accès à tout un arsenal qui évoluera au fur et à mesure de l'aventure, comme ses capacités. Et la particularité est que dès que tu meurs, tu recommences à zéro, mais tu gardes certaines capacités que tu débloques. Comme par exemple, tu vas découvrir la capacité du katana, hop, tu vas garder le katana, et tu, par contre, tout ton stuff, toutes tes armes, tes aptitudes et autres, tout disparaît.
Ah,
ce jeu est dingue. Ah oui, ce jeu est dingue. Mais attention, la difficulté, elle est là. L'ambiance folle, elle est là. Les monstres, il y en a partout. Ça tire dans tous les sens. Limite, on se croirait dans un Danmanco. Tellement il y en a partout à l'écran. Mais c'est un truc de malade. Des fois, t'arrives dans des zones, il y a plusieurs monstres différents, qui ont des tirs différents. Ça part de partout. Quand t'arrives au boss, les boss sont tous, alors, de ce que j'ai fait pour le moment, charismatiques. Et c'est un Danmanco. C'est vraiment un Danmanco. Je l'ai streamé, les gens me disaient dans le chat, mais on dirait un Danmanco ton jeu là. C'est un shoot, en fait. Non, les gars, c'est un roguelike TPS. C'est hallucinant. C'est ouf, les boss, je vous l'ai dit, ils sont mortels. L'autre particularité du jeu, quand tu recommences le jeu, tu refais les niveaux, mais les salles ne sont pas dans le même ordre. Ou encore, même le contenu dans les salles n'est pas dans le même ordre. Non, mais juste, il est incroyable ce jeu. Je le fais en stream, comme je vous l'ai dit. Il est ultra jouissif. Bon, par contre, attention quand même, je le redis, mais il est vraiment dur. Crise de nerfs assurée. J'ai failli lancer 3-4 fois la manette dans la télé, puis je me suis rappelé que je venais de changer de télé, que la PS5 est dure à trouver. Donc je me suis dit je vais éviter. Donc faut aimer souffrir, hein. Clairement faut aimer souffrir, mais c'est un peu comme les Dark Souls, c'est-à-dire que c'est quand tu meurs, c'est de ta faute. C'est pas le jeu, il est mal calibré, il est mal dosé, il est mal machin et tout. Non, il y a pas de secret, c'est de ta faute. Voilà, je peux pas vous dire mieux, il faut y aller. Le jeu, il est ouf, il est beau. C'est l'un des rares jeux PS5 qui va utiliser les fonctionnalités de la manette.
Ah,
pour les gâchettes et ainsi de suite. Il est vraiment incroyable. Je l'ai chopé cet été à petit prix, il était à 30€ en promo. Allez-y les gens, c'est du tout bon. Moi je me suis régalé. Voilà, cette émission arrive à sa fin. On vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre, bien évidemment, dans ce podcast qui peut vous permettre de revenir en arrière. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu de tout ce que propose Just for Games. On ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité. www.justforgames.com/fr. Voilà, merci d'avoir suivi Just for Games, le podcast. Suivez-les sur Twitter @justforgames_fr ainsi que sur Facebook et Instagram @justforgames.
N'oubliez pas que vous pouvez également nous envoyer un mail à podcast@just-for-games.com, podcast@for-games.com. On répond évidemment à tous les messages, mais surtout on y répond au sein du podcast. Donc si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez passer dans l'émission, eh bien vous êtes les bienvenus.
Notez qu'on peut également nous retrouver sur Twitter et Facebook. Pour ma part, vous me retrouvez à TMDJC underscore, ou TMDJC d'ailleurs en général. Sauf erreur de ma part, Terry, on te retrouve à Terry underscore Level Max.
Et ben voilà.
On en profite ce mois-ci pour remercier Marc, qui est un petit peu le chef suprême du podcast. C'est lui qui est au niveau pyramidal tout en haut. Et parce que ça fait un an qu'on est là maintenant, c'est lui qui nous a laissé notre chance pour monter ce podcast. Et on avait envie de lui faire un petit coucou et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Exactement, merci chef, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Non, mais je plaisante, mais blague à part. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est lui qui nous a donné notre chance. Donc merci encore Marc, le chef suprême. On va l'appeler le chef suprême maintenant, ouais, je crois.
Maintenant,
on va
plus l'appeler
Marc. Maintenant, ce sera la ref entre nous, chers amis, chers auditeurs, chef suprême. Retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles. Et on vous dit à dans 2 mois, les gens. Merci à toi, cher TMDJC. Des bisous.
Merci à toi, Terry. Des gros bisous.
Bisous tout le monde. Ciao.
Ciao.